Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au Sommet de l'Hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Allez, bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Humbert pour la seconde fois, dermatologue spécialiste en médecine interne. Si ça, c'est pas un invité à 1000%, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ensemble, l'idée aujourd'hui, c'est de démystifier le monde des vers intestinaux, parasites et autres hôtes indésirables. On a beaucoup parlé du microbiote sur le podcast, mais jamais de ce monde-là. Si vous pensez que ça ne vous concerne pas et que vous voulez quitter l'épisode, attendez un petit peu, parce que finalement, ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Saison, infection urinaire à répétition, problèmes digestifs, toux sèche, pipi au lit chez l'enfant, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, autant de symptômes qui peuvent évoquer la présence de vers. C'est près de 70% des enfants en bas âge vivant en collectivité qui sont parasités. Professeur Humbert, j'ai pu lire votre nouvel ouvrage sur les parasites qui vient de sortir, que je montre à l'écran. Ces hôtes indésirables qui envahissent notre corps. Finalement, ce bouquin, est-ce que ce n'est pas une ode au vermifuge ?
Non, parce que je n'en veux pas à ces petits parasites qui nous envahissent, parce que probablement qu'ils ont une fonction, qu'ils ont un rôle. Mais quand ils dépassent les bornes, c'est-à-dire quand ils se développent davantage qu'il ne faudrait, il faut quand même se protéger. Et pourquoi ils se développeraient ? Ben parce que ils s'installent dans un intestin pathologique. Et on pourrait peut-être les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on va s'apercevoir qu'on a un intestin malade. Et en fait, les parasites, bien sûr, il faudra s'en débarrasser dès lors qu'ils donnent des symptômes, mais surtout s'occuper de cet intestin pathologique. Et on leur dit merci de se signaler comme ça.
Ce n'est pas tellement juste un problème de vers, c'est l'intestin, les vers. Ça commence par qui ? Ça commence par un intestin en mauvaise santé. Mais c'est un cercle vicieux quand même.
Alors, c'est même plus complexe que ça. C'est l'intestin qui est en mauvaise santé parce que nous sommes chacun d'entre nous prédisposés à avoir un intestin qui va être plus ou moins sensible à certaines choses. Et puis, il y a l'alimentation. Notre alimentation qui va abîmer notre intestin. Et à ce moment-là, cet intestin abîmé va être un endroit propice au développement des parasites. Puisque nous, on parle aujourd'hui des parasites intestinaux, mais il faut savoir aussi qu'il y a bien d'autres parasites que ceux qui se trouvent dans l'intestin. Il y a des parasites du sang, par exemple, c'est le paludisme. Il y a des parasites qui se trouvent sur la tête, ce sont les poux. Il y a énormément de variétés de parasites. Il y en a qui se trouvent dans la peau, ce sont les filaires. Il y en a qui se trouvent dans l'œil, etc. Donc, les parasites, c'est des êtres pluricellulaires le plus souvent, pas toujours, parfois il n'y a qu'une seule cellule, mais ce sont des êtres qui ne sont ni des virus, ni des bactéries, ni des champignons, et qui vivent à nos dépens, d'où le terme parasitisme. On appelait à Versailles, sous Louis XIV, les parasites, les personnes qui venaient vivre dans le palais et qui n'avaient rien à y faire, mais ils profitaient de la nourriture, des toilettes ou je ne sais quoi. Donc, ces parasites vivent avec nous. Ils nous procurent probablement des avantages qu'on ne connaît pas encore beaucoup, sauf que certains pensent que ces parasites pourraient être utiles pour contrôler certaines maladies et parfois certaines maladies auto-immunes, Mais ça, on n'a pas suffisamment de preuves. Mais ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il nous donnait des maladies qui étaient particulièrement handicapantes, chroniques. Certes, ce ne sont pas des maladies mortelles, quoique cela peut arriver. Et je raconte dans mon livre comment un grand homme que tout le monde connaît, mais bien entendu, je ne donne pas le nom, a failli mourir d'une parasitose qu'il avait attrapée 30 ans plus tôt en se déplaçant dans les îles en Martinique et en Guadeloupe. Et à 80 ans, au moment où il y a une baisse importante de l'immunité, ces parasites se sont amplifiés et ont donné un tableau clinique qui le conduisait à la mort si on n'était pas intervenu. Effectivement, ces parasites, dès lors qu'ils donnent des symptômes, doivent être pris en charge, doivent être traités. Donc, trois choses. Notre terrain, l'alimentation qui, sur ce terrain pathologique, sur ce terrain sensible, va créer le lit de la place des parasites. Et les parasites.
Et en termes de taille et de nombre d'espèces, très variable, je suppose, une multitude.
Oui. Alors, c'est très curieux parce que les parasites intestinaux, ça va d'un petit protozoaire, c'est-à-dire d'un être unicellulaire, comme le blastocystis, le dianthomeba, ou même les giardiases, qui sont des parasites, soit les derniers giardiases qui se situent vers le duodénum, très haut situé, et qui sont une cause très fréquente de diarrhée chronique, notamment chez l'enfant, et qui donnent des dyspepsies, c'est-à-dire des rots, on n'est pas bien, on a quelque chose qui se passe pas bien ici. Il faut savoir penser aux parasites. Et puis, d'autres protozoaires, on en a parlé, dianthomeba et blastocystis, qui, eux, se baladent dans l'intestin et nous indiquent qu'il y a d'autres parasites ailleurs. Et comme ce sont eux qu'on trouve dans les analyses de sel, parfois le médecin, il ne s'intéresse qu'à eux. Et il va traiter ces parasites par du flagyl, ce qui est tout à fait leur droit, mais en oubliant que ces parasites signalent en fait qu'il y a des parasites plus haut situés, qu'on appelle les helminthes. Et donc ensuite, il y a les helminthes, qui sont des petits vers qui vont des oxures de quelques millimètres à 1 centimètre, jusqu'à des grands ascaris qui peuvent faire 30 centimètres. Ça, ce sont les vers ronds. On appelle les nématodes. Et puis à côté de ça, vous savez qu'il y a les vers plats. Alors les vers plats, ils ont un mode de signalisation beaucoup plus discret parce qu'ils ne créent pas de manifestations immunoallergiques, ou assez rarement, j'allais dire. Parmi ces vers plats, vous avez les ténia, que l'on trouve dans la viande pas cuite de bœuf et de porc. Ne croyez pas qu'en France, on soit préservé de cela. Non, pas du tout. On peut contaminer un ténia du porc, un ténia du bœuf, mais peut-être davantage certaines personnes qui vont manger des bœufs tartares dans certains pays vont attraper le ténia, donc la viande non cuite, qui est un problème particulier. Et puis dans ces vers plats, il faut savoir aussi qu'il y a des vers au comportement particulier qui vont donner des kystes, le kyste hydatique. Quand vous mangez la viande de mouton, vous pouvez attraper ce kyste hydatique qui va créer une tumeur quelque part dans le corps, en général dans le foie. Et puis il y a également l'échinococcose, qui est le parasite dont le ver plat se trouve dans l'intestin du renard. Ce renard va se balader, mais parfois des chiens d'ailleurs aussi, se balader, traîner son derrière sur des baies à une hauteur de 10-15 cm. Et la personne qui va aux champignons, qui voit une petite fraise des prés, des bois, va prendre cette fraise, ne pas la nettoyer, il va la mettre à la bouche et il peut attraper l'échinococcose alvéolaire, qui est une maladie fréquente dans ma région, si bien d'ailleurs que nous avons un centre OMS pour l'échinococcose alvéolaire, et que nos équipes d'hépatologues et de chirurgiens hépatiques ont consacré beaucoup de leur temps à opérer ces malades qui ont des échinococcoses du foie et même à faire des greffes de foie pour leur sauver la vie. Vous voyez que c'est des maladies qui peuvent être quand même assez sérieuses et il faut que les médecins et surtout le grand public soient alertés.
Finalement, ça touche combien de pourcents de la population, ces affections parasitaires? Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, sur les gens qui viennent en consultation pour un eczéma ou un psoriasis ou des démangeaisons? Dans combien de cas de figure est-ce que...
Alors, il faut savoir, un grand parasitologue, le docteur Lapierre, qui a fait un livre sur les parasites que tous les étudiants en médecine ont eu, parce que ce livre était offert par un laboratoire pharmaceutique, qui, je pense, vendait des produits antiparasitaires. Ce livre qui est très, très bien fait, qui parle des parasitoses. Le docteur Lapierre disait dans ce livre, 80% de la population est porteur de parasites. Au minimum. Ce n'est pas dire peut-être 100%. Mais ces parasites vont donner des maladies, et notamment des maladies, comme vous l'avez signalé, immunoallergiques, comme des eczémas ou de l'urticaire, chez un grand nombre de patients. Vu que l'urticaire doit toucher, les eczémas touchent 5 à 20% de la population, Donc imaginez, 25 à 20% de la population est porteur de ces parasites à potentialité immunoallergique.
Et quand vous dites à potentialité immunoallergique, c'est que ça crée des réactions allergiques, inflammatoires, qui miment en fait comme une fausse allergie.
Exactement.
Même de l'asthme aussi, ça pourrait mimer des...
Tout à fait, beaucoup d'asthme. Alors, il faut savoir penser à cela. Alors, tout d'abord, les parasites vont donner soit rien du tout, on est porteur et on ne marque rien, soit des signes très variés. On les reprendra tout à l'heure, vous les avez cités, énurésie, pipi au lit, énervement, des petites choses. Parfois, le nez qui gratte, des choses comme ça. Et parfois, vont donner des réactions donc de prurit, démangeaison. La démangeaison, c'est le maître symptôme des maladies le plus souvent immunoallergiques. Et j'ai tendance à dire que les parasites suscitant des anticorps le plus souvent de type immunoglobuline E, c'est-à-dire de la rangée des anticorps d'allergie, c'est comme ça qu'on expliquerait que ces parasites donnent des démangeaisons. Donc des démangeaisons sur le corps, dans le cuir chevelu, dans les oreilles, de l'urticaire éventuellement, et chez la femme, peut-être plus chez la femme que chez l'homme, des démangeaisons génitales, au niveau des organes génitaux que les femmes appellent des mycoses. Docteur, toute ma vie, j'ai fait des mycoses génitales. En fait, ce ne sont pas des mycoses, ce sont des maladies parasitaires de l'intestin qui vont donner des démangeaisons en bas, au niveau des organes génitaux et parfois au niveau de l'anus. Donc, quand vous vous grattez dans la culotte, en quelque sorte, dites-vous bien que vous avez probablement des parasites intestinaux que vous ne verrez pas. Ce ne sont pas forcément des oxures, des petits parasites qui sont directement dans l'anus, mais non, ce sont parfois des parasites qui sont bien plus haut situés et qui sont en nombre important. On estime à 5000 le nombre de parasites quand un intestin grêle qui fait 7 mètres, 8 mètres est envahi par ce type de parasites.
Oui, on peut avoir une forme de honte hein, à admettre qu'on peut être atteint de ces parasites-là. On se dit je suis sale, mais finalement c'est quelque chose de très commun. Qui s'attrape très facilement en collectivité, et c'est porté par les mains. Et comment est-ce que je peux attraper ça? Donc par voie digestive, en ingérant une nourriture qui n'est pas suffisamment cuite ou qui a été contaminée. Est-ce que par les relations homme-femme, est-ce qu'on peut se les transmettre? Comment ça se c'est quoi le mode?
Alors quand dans un couple ou dans une famille, plusieurs personnes sont parasitées, contaminées par des parasites, il faut s'imaginer que c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'alimentation. Ils mangent la même chose. Ils prennent la même salade, les mêmes tomates, les mêmes fruits. Que, a priori, les parasites sont apportés par les aliments. Les aliments qui contiennent des œufs, parfois des larves, qu'on ne voit pas tellement petits. Et donc, on va se contaminer avec l'alimentation. D'où la nécessité de bien laver ces aliments, ou de les faire cuire, ou de les congeler. Alors, dans le livre, vous verrez qu'il y a des recettes qui vous expliquent combien de temps il faut cuire les aliments, combien de temps on peut les congeler. Et ça, c'est très important. Et puis, lavez votre pomme, lavez votre fruit, brugnon, pêche. Alors, on me pose souvent la question, et comme beaucoup, je fais référence à ma grand-mère. Ma grand-mère m'expliquait que quand elle allait dans le verger d'à côté, cueillir des pissenlits, cette petite salade qui était très bonne avec des petits lardons dans notre Franche-Comté, eh bien, elle mettait ses pissenlits, après les avoir lavés à grande eau, dans une bassine avec de l'eau. Et elle prenait un berlingot d'eau de Javel, elle coupait le coin du berlingot, elle mettait quelques gouttes d'eau de Javel, elle laissait tremper une demi-heure. Puis ensuite, elle rinçait abondamment, et nous mangeions des très bons pissenlits. Mais ma grand-mère avait déjà l'idée qu'on pouvait attraper des maladies. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle avait entendu dire que c'était quelque chose qui pouvait s'attraper. Donc, cela. Autre possibilité que j'ai ensuite entendue, c'est de mettre du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc sur les feuilles de salade, sur les fruits. Autre possibilité, du bicarbonate de soude. Bien sûr, il n'y a aucune étude qui a démontré que c'était efficace. Mais néanmoins, on peut se dire que si on nettoie, si on prend ses précautions, c'est mieux que rien. Et moi-même, qu'est-ce que je fais? Je prends ma pomme, je vais au robinet. Je mets des gouttes de gel de gel main pour se laver les mains sur la pomme. Je mousse beaucoup, quelques minutes, comme un chirurgien qui se laverait les mains. Puis je rince beaucoup. Et là, j'espère qu'avoir une pomme qui est débarrassée des cochonneries. Alors, des parasites certes, mais parfois aussi des crottes de souris, puisque quand les maraîchers laissent les cagettes de fruits, ben pensez bien que la nuit, il y a des animaux qui se baladent et qui font des besoins sur vos fruits. Donc, bien entendu, il faut les nettoyer sérieusement. Voilà ce qu'il faut faire, me semble-t-il, pour ces parasites, pour s'en prémunir.
Donc, il n'y a pas que les viandes crues, finalement. Il y a aussi tous les aliments qu'on ne va pas cuire et ou qu'on ne va pas laver avant de les consommer.
Exactement. Et puis ensuite, vous avez dit quelque chose de tout à fait juste, c'est les mains. Eh bien ça, les mains transportent des parasites. Pas que des parasites, des bactéries. On peut attraper le choléra, vous le savez, par les mains sales. On peut attraper la salmonelle, c'est-à-dire une bactérie typhoïde, salmonella de la fièvre typhoïde, par les mains sales. Donc, il faut vraiment se laver les mains. Et c'est comme ça que les nourrissons attrapent des parasites, parce qu'ils ne mangent pas de fruits. Ils ont 3-4 ans, 3-4 mois, ils boivent le biberon. Et pourtant, très tôt, on peut découvrir des parasites chez eux. C'est que une personne qui est venue voir, qui a donné son doigt, sa main au petit enfant, qui le met dans la bouche comme tout petit enfant, eh bien, on peut contaminer. Donc, je conseillerais vraiment à toute personne qui s'approche d'un nourrisson de se laver les mains très soigneusement avant d'approcher un nourrisson. De même, si vous côtoyez des chiens ou des chats, si vous caressez votre chien ou votre chat, ou si vous allez dans le parc où les chiens et les chats s'ébrouent, il y a probablement du parasite qu'on appelle Toxocaracanis, eh bien, n'allez pas saluer quelqu'un, n'allez pas donner votre main à quelqu'un tant que vous n'êtes pas lavé les mains, parce que vous pourriez lui transmettre, à ce moment-là, un autre parasite qu'on appelle Toxocaracanis, et qui, lui, peut donner des maladies graves. Regardez dans le livre cette aventure terrible d'une maman qui découvre que son fils de 4 ans ne voit plus clair d'un œil, et en fait, on apprendra au cours de l'histoire que c'est un parasite qu'il a contracté du petit chiot qu'on lui a offert à Noël, qui est entré dans son œil et qui a donné cette cécité. Voilà, donc c'est quand même des précautions à prendre, surtout sur les immunodéprimés. Alors, qui sont les personnes qui sont sensibles à ces parasites? Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de défense immunitaire. Soit c'est naturel chez vous, vous manquez d'anticorps, notamment les immunoglobulines A, et donc vous êtes plus sensible que les autres. Soit vous avez des maladies immunosuppressives, notamment des lymphomes, des maladies de ce genre-là, ou ce sont les traitements eux-mêmes qui créent une immunodépression. Et puis enfin, une grande cause, c'est le grand âge. Donc ce monsieur qui a attrapé cette maladie, qui le grattait de partout, il a perdu pas loin de 30 à 40 kilos, il se tenait comme un enfant en position fœtale dans son lit à 80 ans, avec des excoriations sur le corps. Il avait des troubles digestifs, il ne mangeait plus, il avait plus faim. Et on a cherché, partout où il est allé, dans les hôpitaux, etc. Personne n'a trouvé la cause. Et on lui a dit, c'est un prurite sénile. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui a une solution qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire que ça serait normal parce qu'on est vieux d'avoir un prurite de vieux. Non, c'est on est vieux et on a un prurite d'une cause, c'est d'autant plus sévère qu'on est vieux. Et donc, en réfléchissant autrement, je dis c'est un prurite, donc une démangeaison chez une personne âgée. Donc, il y a quelque chose qui profite que la personne est âgée, donc de son immunodépression. Qu'est-ce qui peut donner des démangeaisons et profiter de la baisse d'immunité? Des parasites. Mais on avait cherché des parasites. Dans les selles, on les a pas trouvés. Bien évidemment, on les trouve pratiquement jamais. Si, on peut les chercher, mais souvent, ce n'est pas parce qu'on les trouve pas qu'il n'y en a pas. L'erreur, c'est pas de les chercher et de pas les trouver. C'est de les chercher, de ne pas les trouver, d'en déduire qu'il n'y en a pas. Moi, je vais rarement à la pêche, mais quand je vais à la pêche, je suis un mauvais pêcheur, je ramène rien. Je ne dis pas, il n'y a pas de poisson dans le fleuve. Non, je sais qu'il y en a, mais que je ne sais pas les pêcher. Un examen parasitologique des selles négatif ne veut pas dire qu'il n'y a rien. De même, une prise de sang avec des anticorps contre les parasites, cette prise de sang serait négative, ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, faut être convaincu qu'il y en a. Si on se gratte, comme ce monsieur, et qu'on a maigri, et qu'on est âgé, c'est qu'il y a des parasites. Où a-t-il pu attraper des parasites? Eh bien, bon sang, réfléchissons. 30 à 40 ans plus tôt, cette personne a fait des conférences. Partout dans le monde entier. Probablement aux Caraïbes, dans des pays où il y a des parasites. Il n'a pas eu au début de troubles digestifs, ou peut-être en a-t-il eu quelques jours. Mais c'est passé. Et puis, à un moment donné, probablement, sur ces prises de sang anciennes, il y a eu une augmentation de certains globules blancs. Mais comme beaucoup de personnes jettent leur prise de sang, ce qui est un gros tort, on ne trouvera jamais cette analyse qui, à un moment donné, était perturbée et annonce la maladie qui va arriver 30 ans plus tard. Donc, comment a-t-il contracté cette anguillulose? Parce que je vous donne tout de suite le diagnostic, ou qu'on appelle également strongyloïdose. C'est un parasite qu'on attrape par les pieds. Comment se fait-il? On marche sur la plage, notre pied a des excoriations au bord des ongles, et quelque part un chien est passé par là, fait une croque, vous mettez votre pied à l'endroit, et là les parasites en profitent pour entrer dans votre peau, puis ensuite se baladent dans le sang, puis ensuite retrouvent le tube digestif, bien entendu, où ils vont se tapir pendant des années sans se développer, parce que votre système immunitaire le contient, et puis à un certain âge, ça va s'amplifier. C'est ce qu'on retrouvait chez les anciens soldats d'Indochine. Ce sont des gens qui partaient à 20 ans en Indochine, la guerre du Vietnam, et qui, pour ceux qui revenaient, à 80 ans, développaient ce genre de maladie. Diarrhée profuse, démangeaison, chute des cheveux, chute des dents, parce que on attaque l'intestin en même temps, et donc il peut y avoir même un scorbut. Et ces pauvres personnes, eh bien, avaient réveillé le parasite, les milliers de parasites qu'ils avaient ramenés d'Indochine, qui étaient dans l'intestin, et donc ils se sont mis à développer cette anguillulose. Donc cette personne, c'était cela qu'il avait.
J'entends tout ça. Hein. Est-ce que ça ne pousserait pas vers un hyper-hygiénisme, tout ça, de laver une pomme avec de l'eau de Javel, faire tremper sa salade pendant une heure avant de la manger? Moi, en arrêtant le podcast, je vais même plus vouloir marcher pieds nus à la plage. Ça m'inquiète tout ça. C'est quoi la limite un peu de toute cette réflexion?
Non, c'est pas. On peut vivre normalement, mais il faut connaître à ce moment-là que ça existe. C'est-à-dire, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on mette des années et des années avant de trouver la maladie parasitaire chez la personne. Donc, il faut que les médecins soient informés. Il faut que la population soit informée. Aujourd'hui, beaucoup de médecins ne veulent pas reconnaître l'existence des parasites. Beaucoup de patients se plaignent vers moi en disant « Mais rendez-vous compte, mon docteur, il n'a pas voulu. » Alors que sur les prises de sang, il y avait les signes d'une parasito. Mais aussi ces prises de sang, si elles ne sont pas présentées au médecin, ou si le médecin ne les a pas regardées, on ne verra pas tous ces signes qui existaient, cette hyper-éosinophilie récurrente. Donc, effectivement, si on peut vivre normalement, mais puisqu'on a les moyens thérapeutiques, eh bien, d'autres personnes vous diront, faites de la prévention avec de la naturopathie. Vivez normalement, mais faites des cures régulières d'antiparasitaires que vous conseilleront les naturopathes. C'est une idée aussi, pourquoi pas?
Et ce que j'avais lu dans votre livre, c'est les infections parasitaires ne sont pas immunisantes, à la différence de quand j'attrape la grippe ou... de toute façon, le système immunitaire n'est pas capable de une fois qu'il y a une primo-infection, de devenir protégé par la suite.
Non, parce que d'une part, il y a tellement de variétés de parasites que l'immunoprotection, elle dépend d'un type de parasite lui-même. D'autre part, vous savez, les parasites, soit ils sont dans un tissu, mais souvent, les parasites digestifs, ils sont dans une lumière, où ils sont pas à l'intérieur même du tissu, même s'ils sont étroitement collés. Bon, en tout cas, c'est l'idée que j'en fais, qu'ils se collent, voire même qu'ils s'incrustent dans la muqueuse, mais pour autant, ils ne suscitent pas forcément de réaction immunitaire puissante. D'ailleurs, à ce stade, on n'a pas découvert d'anticorps vraiment pointus spécifiques contre ces parasites. Et les laboratoires recherchent rarement les anticorps contre les parasites. Alors parfois, on dose des IgE, mais c'est assez compliqué parce que le parasite, il a plusieurs antigènes possibles, vous voyez. Parfois, on dose des IgG. Tout ça coûte également cher. Donc, on ne sait pas dépister les parasites. C'est pourquoi il faut, sur la clinique, faire un traitement souvent d'épreuve.
On en rediscutera de ça juste après. Par exemple, est-ce que vous avez pu discuter avec des gastro-entérologues? Je suppose que oui. Est-ce qu'ils peuvent en déceler sur une coloscopie?
Alors, la plupart du temps, non.
Visuellement.
J'ai même d'ailleurs interrogé un ami chirurgien digestif en lui disant « Est-ce que tu rencontres des animaux comme cela, enfin des parasites ?» Il m'a dit non, très très rarement, sauf quand il y a ce qu'ils appellent les bézoars. Les bézoars, c'est un ensemble de parasites, d'ascaris par exemple, qui se met en boule et qui bouche l'intestin. À ce moment-là, il y a une occlusion. Et quand il opère, il trouve qu'à cette occlusion, c'est pas du journal que la personne aurait mangé s'il est malade psychiatrique. Non, ce sont des vers en boule. Bon, mais il me dit qu'il n'en rencontre presque pas. En coloscopie, je pense qu'on ne doit pas en voir. Pourquoi? Sauf quand il y a un ténia, qui lui est un ver plat très long qui se balade. Et lui, il a besoin de s'étendre dans toutes les anses de l'intestin. Mais les parasites sont pour moi dans l'intestin grêle, le petit intestin dans lequel on ne met pas de coloscope. Donc, endoscope, je veux dire. Donc, et même les vidéocapsules que ces petites caméras qu'on peut ingérer ne voient pas ces parasites. Probablement qu'ils sont derrière des plis, recouverts de mucus, qui sont de la couleur du tissu. Je ne sais pas. Donc, on ne les voit pas.
Et, Vous me parliez de prise de sang avec des globules blancs qui auraient des pics de productivité de manière cyclique. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Et au final, c'est corrélé avec le cycle de vie des parasites. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Comment ça se passe?
Oui, alors il y a un dogme en médecine pour les parasites qui est de dire les parasites s'accompagnent toujours d'une hyper-éosinophilie. C'est quoi? Ce sont les globules blancs éosinophiles, il y a plusieurs catégories, les neutrophiles, les basophiles et les éosinophiles.
C'est
Donc
les
on
prises de sang
considère que
classiques.
les... Comment?
C'est les prises de sang classiques de globules
Classique,
blancs.
sur une numération, quand vous faites
Tout le
une
monde a ça.
prise de
Hein.
sang, tout le monde a ses neutrophiles, basophiles, éosinophiles. Et on sait que les éosinophiles sont des globules blancs qui vont attaquer le parasite. Donc, ces globules blancs vont aller là où est le parasite. Donc, si c'est dans un poumon, on aura une éosinophilie dans le poumon, mais pas forcément dans le sang. Or, les parasitologues, quand ils disent il y a une hyper-éosinophilie, ils disent dans le tissu, dans le cerveau, si vous avez un parasite dans le cerveau, il y aura des éosinophiles dans le cerveau, et c'est comme ça qu'on fera le diagnostic si on prélève le cerveau. Mais pour le médecin, il a compris que c'était dans le sang. Et donc, s'il ne voit pas les éosinophiles dans le sang, il dit au malade, vous n'avez pas de parasite, ce qui est une erreur. En revanche, on peut avoir quand même des éosinophiles dans le sang parce que le parasite, il se balade très souvent de l'intestin dans le sang, puis il remonte également dans les poumons, etc., pour redescendre dans le tube digestif. Il se promène. Et je pense que c'est au moment où le parasite se promène, où les parasites se promènent, que les éosinophiles vont, à un moment donné, augmenter dans le sang, puis ensuite se normaliser.
D'accord. Et vous parliez du cycle, par exemple, pour citer les ascaris, vous parliez du cycle de reproduction. Et en fait, on avait des ascaris qui repassaient par l'œsophage. Vous pourriez nous décrire le cycle de vie de
Oui,
ces...
et ça c'est terrible. Je vous racontais hier, avant-hier, j'ai vu une jeune femme qu'on voudrait mettre en psychiatrie, à qui les médecins, contre qui les médecins ont porté plainte pour vouloir lui retirer ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a décrit ce que tout le monde devrait savoir, le cycle d'un parasite. Elle a un jour sorti de sa bouche un parasite, c'est-à-dire un ascaris rosé, blanc, visqueux, long de 30 cm. Elle savait que c'était un ascaris. On lui a dit, avale ça, c'était mucosité, etc. On l'a même forcé à l'avaler. Et personne ne l'a cru, on l'a pris pour une folle. Pourquoi? Parce que les médecins ignoraient le cycle des ascaris. Alors, le cycle des ascaris, c'est quoi? Vous mangez des œufs d'ascaris que vous avez trouvés sur la salade, sur... Peu importe. Ils vont donner des larves et ils vont faire des vers adultes dans l'intestin. Ces vers sont capables de traverser l'intestin. Or là, c'est quelque chose d'important. Pourquoi les vers traversent l'intestin? Parce que c'est là où je parle des maladies de l'intestin, où l'intestin est poreux. C'est-à-dire quelqu'un qui a un intestin solide, probablement que le ver, il se baladera pas à travers. Mais si vous avez un intestin poreux, sensible à l'alimentation, au gluten, au lait de vache, ou atteint par une maladie inflammatoire de l'intestin, et ces maladies inflammatoires de l'intestin donnent souvent l'occasion aux parasites de traverser. Là, ce parasite va traverser. Où va-t-il aller? Probablement dans le foie, puis il va monter. On ne sait pas trop comment. Enfin, en tout cas, des personnes le savent. Par les poumons, monter dans les bronches, la trachée, et arriver ici au carrefour, souvent la nuit. Et là, parfois, le parasite se perd. Il a perdu son GPS. Il ne sait plus où aller, alors qu'il devrait redescendre dans l'œsophage. Certains parasites, chez une de mes jeunes patientes, s'est perdu dans les fosses nasales. Et la maman, qui était informée de ça, a récupéré le parasite des fosses nasales. Grâce à ça, on a compris pourquoi cet enfant avait des douleurs abdominales depuis très longtemps. Et donc le parasite, normalement, il redescend dans l'œsophage, l'estomac, l'intestin, il reste là à nouveau. Vous voyez comment ça se fait? Et donc, si le... Et pourquoi on ne connaît pas ça? Parce que la parasitologie n'est pas enseignée en clinique. Elle est enseignée en parasitologie en troisième année de médecine. Donc, en troisième année de médecine, on vous apprend la structure des bactéries, la structure des parasites, mais on fait peu de clinique. Et souvent, le jeune médecin, il n'a pas encore appris ses réflexes d'apprendre ce qu'étaient les manifestations cliniques. Et donc, il arrive médecin et il sait pas ça. Et donc, quand on lui raconte ça, il a tendance à penser que le malade lui raconte n'importe quoi. Et donc, cette jeune femme, je vais devoir l'aider en faisant une attestation qui explique exactement. D'ailleurs, elle a tous les signes biologiques d'une maladie de l'intestin très grave qui favorise le passage de ces vers, et elle a les signes biologiques de l'existence de ces vers dans son corps. Vous voyez, ça peut aller loin.
Oui, et finalement, dans son cas de figure, il n'y a pas de test biologique ni de résultats de sel. Il y a pas un document, vous voyez, d'examen biologique qui atteste qu'elle a ça, mais c'est la clinique qui va primer.
La clinique va primer, mais heureusement, on a des arguments néanmoins. Donc, par exemple, il y a un signe qui est peu connu, mais que j'aime à rappeler, c'est l'hypergamma polyclonal. Sur un examen qui s'appelle l'électrophorèse, on va avoir un gros paquet de gamma-globules. Ça, c'est un signe souvent de parasitisme. Il y a deux ou trois causes à côté que vous éliminez facilement. Donc, s'il reste celle-là, c'est les parasites. Vous avez les éosinophiles, mais il faut regarder toutes les prises de sang des 15 dernières années. Et si vous trouvez en 2002 800 éosinophiles, puis en 2012 750 éosinophiles, etc., vous avez tous les éléments de ce qu'on appelle la courbe de Lavier. Et puis, il y a les IgE, parfois, ils ne sont pas toujours augmentés. C'est des anticorps, des familles d'anticorps qui vont attaquer les parasites, qui sont augmentés. Donc, avec ça, vous avez la possibilité de faire le diagnostic de parasites.
Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se vermifuge tous, docteur Humbert, deux fois par an, comme le faisaient les anciens?
Oui, alors, pourquoi on devrait le faire? Il faut savoir une chose que j'ai apprise, moi, ces dernières années, en voyant des patients, en cherchant sur une banque de données qui s'appelle PubMed, et je ne peux pas me passer de cette banque de données. Chaque jour, je m'y réfère 3 ou 4 fois et je découvre des choses incroyables que la médecine ne m'avait pas apprises. Et pourtant, je suis dermatologue, je suis spécialiste en médecine interne, j'ai une compétence en allergologie, etc. Mais il y a des choses que je n'avais pas apprises. Par exemple, que les parasites favorisaient l'herpès. Tous les virus herpès. L'herpès de la bouche, l'herpès génital, la mononucléose infectieuse qui est une maladie due à une famille d'herpès, ou les zonas. La personne âgée qui fait un zona, on traite le zona, point, c'est tout. Et on s'en occupe plus. Alors que probablement cette personne a des parasites et que le zona est en train de nous dire « Attention, cette personne est immunodéprimée, elle a des parasites. » Deuxième situation qui est quand même très inquiétante pour une jeune femme, c'est que les parasites peuvent favoriser le papillomavirus. Alors bien sûr, ça fait pas naître le papillomavirus comme ça, comme on croyait d'ailleurs il y a quelques années. Paraît-il, je vous donne une anecdote, il paraît qu'au temps de Pasteur, on croyait que les souris naissaient de la farine. Imaginez-vous, c'était il y a plus de 100 ans, ben c'est pas si vieux que ça. Mais ne croyez pas que le parasite fait naître le papillomavirus, non. Mais si une jeune femme se contamine par un partenaire avec le papillomavirus, eh bien probablement que si elle est porteuse de parasites, le papillomavirus va s'amplifier. Les études montrent cela. Et que même, il y a un risque accru de cancer dû au papillomavirus quand vous êtes porteur de parasites. Donc, vous êtes une jeune femme, interrogez-vous, est-ce que vous n'avez pas un petit peu de démangeaison par-ci par-là? Et ne faites-vous pas des cystites, qui ne sont pas des vraies cystites, parce que quand vous faites l'analyse, et là encore, j'ai envie de dire à mes collègues, regardez les résultats d'urine. Elle fait une cystite, vous faites une CBU, il n'y a pas les signes de l'infection urinaire. Il n'y a pas les bactéries en nombre suffisant, où il n'y a pas les polynucléaires en nombre suffisant. Donc dites-vous, c'est une fausse cystite. Puis si cette femme dit « je fais des mycoses », ce ne sont pas des mycoses, parce qu'une mycose, ça a un décide particulier. Fausse cystite, faux mycose égale parasite intestinal. Eh bien, parasite, on traite avant qu'il y ait du papillomavirus qui vienne se développer sous l'effet des parasites.
Juste pour récapituler, sur les infections urinaires, ce sera essentiellement bactérien. Les mycoses, ce sera essentiellement plutôt des levures, des champignons, typiquement le candida.
Mais ça n'en sont pas chez cette femme qui dit qu'elle a une infection, vous voyez?
Mais quand c'est des mycoses, on parle de champignons.
Exactement.
À chaque fois, on parle d'espèces qui ont rien à voir. C'est du microscopique, mais c'est complètement différent.
Mais c'est un abus de langage pour la femme chez qui les organes génitaux démangent. Elle a des écoulements, des pertes, comme elle dit. Elle va dire « j'ai une mycose ». Puis personne ne va vérifier qu'elle a une mycose. Une mycose, c'est rouge, c'est blanc, il y a des dépôts de lait caillé, il y a des pustules, ça c'est une vraie candidose vulvaire. Ça peut arriver. Mais 99 fois sur 100, quand une femme dit j'ai une mycose, elle n'a pas ça du tout. Donc elle n'a pas un champignon. Or, on aurait envie de traiter les champignons. Non, c'est une manifestation de parasite intestinal.
Et par exemple, les signes cliniques d'une parasitose chez un enfant, puisque dans votre livre, vous faites état de 60 à 90% des enfants dans les collectivités qui seraient atteints d'oxyures, qui sont des petits parasites. Quels seraient les signes évocateurs pour un enfant?
Alors, pour un enfant, c'est l'agitation, un enfant qui est agité, qui a envie parfois de manger de la terre, ce qu'on appelle la géophagie, c'est souvent un signe de parasitisme. S'il fait de l'urticaire, des démangeaisons, de l'eczéma, s'il a des dartres sur la peau, vous savez, des plaques blanches un petit peu sèches, ça, ce sont des signes. S'il se gratte le nez, s'il est énervé, s'il se réveille la nuit, s'il a du mal de s'endormir, tout ça, c'est des petits signes qui peuvent dire attention, Et puis, bien sûr, il y a des signes plus directs. On se gratte les organes génitaux, on se gratte l'anus. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Quand on a ça, on va penser parasite tout de suite.
Quelqu'un qui nous écoute, ça lui fait penser son fils à ça, ou un auditeur à ça. Est-ce que je ne peux pas juste passer à la pharmacie et m'acheter un vermifuge? Et quelles seraient les solutions concrètes pour quelqu'un qui nous écoute, même si forcément la meilleure chose à faire, c'est de consulter son médecin traitant, en tout cas son médecin référent, et de prendre un avis et de se faire aiguiller. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas cette prévention à faire en autonomie? Quels seraient les risques?
Je comprends. Il y a la facilité. Donc, on peut aller voir le pharmacien. Le pharmacien est habilité à délivrer le flubanazole, qui est un des médicaments antiparasitaires. Bon. Si vous voyez votre médecin, il faut que votre médecin ne se contente pas de faire la même chose que le pharmacien. Il faut que le médecin se dise, cet enfant a des symptômes, est-ce qu'ils sont tous dus à des parasites? D'autre part, qu'il se dise, si cet enfant a des parasites, est-ce qu'il n'a pas une condition particulière qui fait qu'il a attrapé des parasites? Donc, on fait de l'information dans la famille au sujet des mains, des aliments à laver, etc. Et en même temps, on va regarder si cet enfant n'a pas un déficit immunitaire humoral, par exemple en immunoglobuline A, qui peut se manifester par de l'eczéma, tendance à l'eczéma, etc., etc. Donc le médecin, il doit faire plus que ça, et il doit chercher même des carences, puisque ces intestins qui sont infestés par des parasites sont souvent des intestins qui n'absorbent pas correctement les nutriments, et ces enfants sont carencés en fer. Donc ça se voit sur la peau, il n'y a pas besoin de faire une prise de sang. On regarde le blanc des yeux qui est bleuté, on voit qu'il perd ses cheveux, il a la peau sèche, parfois une petite perlèche. Bref, il peut être carencé en vitamine B12, en vitamine B9. Donc le médecin va faire tout ce travail et même rechercher des verrues. Puisque le papillomavirus, on a parlé du papillomavirus génital chez l'homme et chez la femme, mais papillomavirus, c'est les verrues chez les enfants. Donc un enfant qui a des verrues, il faut que le médecin s'y intéresse. Se disent, bon sang, tiens, ces virus sont peut-être là parce qu'il a des parasites intestinaux. Et je vais faire mon travail de médecin sur les parasites. Donc voilà, le pharmacien, le médecin. Et puis, il y a d'autres intervenants en matière de santé. Et ces autres intervenants sont les naturopathes. Et je dois dire que parfois, ils sont décriés, et moi, j'aurais tendance à dire, heureusement qu'ils existent. Parce que ils écoutent longuement le patient. Et j'ai déjà vu des observations de naturopathes extrêmement longues, extrêmement détaillées. Ils prennent soin de découvrir énormément de choses. Et eux sont informés, parfois plus que le corps médical, sur les parasites. Donc ces personnes-là sont à même de donner des explications très précises. Et puis, ils ont même des solutions. Parce que l'empirisme a fait qu'on sait que les clous de girofle, que l'ail est parfois sous certaines conditions, que d'autres produits végétaux vont avoir des vertus antiparasitaires. Et il y a même des naturopathes qui ont créé leur propre fabrication de composition et sont devenus réputés, célèbres, ils font la publicité de leurs produits pour nettoyer l'intestin des parasites. Donc il y a des solutions, il faut y penser, ça fait partie de l'entretien.
D'accord. Pour le flubendazole qu'on peut trouver en pharmacie, large spectre, est-ce qu'il faut pas, vous évoquez plusieurs molécules différentes dans le livre, est-ce que juste ça suffirait en prévention? Non. Dans 80% des cas?
Oui, ça pourrait suffire en prévention dans 80% des cas. Il faut que la durée soit suffisamment longue. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes à regarder sur Internet. On a heureusement Internet. On n'a plus besoin d'avoir une encyclopédie médicale chez soi. On peut trouver. Mon fils a des oxures, donc c'est des petits parasites, vous savez, blancs. La femelle sort à 18h, après à 18h, et c'est vrai que j'ai pu constater qu'à 18h, il y a un petit ver qui sort pour pondre ses œufs. Eh bien, ces parasites vont se traiter une certaine durée. Si vous traitez un jour ou deux, c'est parfois pas suffisant. Donc, vous tapez sur Internet, durée du traitement de l'oxure, durée du traitement de telle ou telle maladie parasitaire. Donc, vous avez toutes les informations à cet endroit.
Oui, faites-vous aiguiller, hein. C'est bien, c'est la limite aussi de l'autotraitement et de s'auto-informer. Je pense que c'est pour avoir tous les éléments pour pouvoir aller voir votre médecin et en discuter avec lui et en ayant le plus d'informations possible. Mais après, la médecine, ça s'improvise pas.
C'est tout à fait. Et c'est pour ça que vous l'avez vu dans tous mes livres, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je donne des conseils aux personnes et ils m'en font grâce. Le nombre de personnes qui me disent « Merci, grâce à vous, j'ai pu... savoir ce que j'ai pu orienter mon médecin, j'ai pu, etc. » Et il y a le livre « Avez-vous un bon médecin ?» Vous le savez, qui est parfaitement intéressant pour toutes les personnes qui vont savoir comment ils vont pouvoir présenter leur dossier au médecin pour que le médecin travaille le mieux possible. Et puis, cette fois, il y a les parasites, en effet, qui est ce livre qui ouvre les yeux à beaucoup de gens. D'ailleurs, je vous le dis, et j'en suis vraiment très heureux, ce livre a été best-seller pendant 2-3 mois. Ça a été un des numéro 1 des ventes dans les librairies pendant plusieurs mois au début de sa sortie. Et les gens continuent à s'y intéresser parce qu'ils trouvent des informations très importantes.
Oui, mais c'est juste que c'est un sujet aussi qui sort de l'ordinaire. Si vous auriez fait un livre sur le microbiote, je pense que ça n'aurait pas eu ce que je vous aurais souhaité. Mais on va dire que ça aurait été peut-être noyé dans la masse d'informations qu'il y a aujourd'hui là-dessus. Hein.
Alors, vous utilisez un mot qui est très important. On en parle beaucoup, le microbiote. Et beaucoup
le
de
microbiome.
Personnes disent, microbiome, microbiote. Et beaucoup de personnes me disent, est-ce que je vais prendre des probiotiques, etc. On parle du microbiote. Oh là, il y a quelque chose qui tombe à côté de moi. On parle du microbiote. Simplement, on a oublié que les parasites font partie des agents vivants, infectieux, qui vivent avec nous. On a 2 kg de bactéries dans l'intestin. Je pense qu'ils contiennent, ces 2 kg contiennent aussi les parasites. Vous voyez? Donc, il y a les virus, les bactéries, les parasites et les champignons qui vivent avec nous dans l'intestin.
Pour revenir sur cette vermifugation, est-ce qu'il y a des effets secondaires à le faire?
Oui, alors, tout médicament, c'est le médecin qui doit le prescrire. Hein. Donc, pour traiter une maladie...
Sans prescription médicale, c'est ça aussi le...
Bon, j'ai tendance à dire, pour traiter des symptômes et une maladie, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? C'est un état qui n'est plus physiologique, qui n'est pas normal, et pour lequel il y a des symptômes qui ne sont pas normaux. Il n'est pas normal de se gratter terriblement le cuir chevelu. Donc, c'est un symptôme, donc il y a une maladie. Il n'y a rien de mieux que les médicaments aujourd'hui pour traiter une maladie. Alors, bien sûr, on pourra me contester en me disant, mais si, on peut traiter par le naturel, par ceci, cela. Mais dans la vie dans laquelle je vis, et bon. Donc, demandez l'avis d'un médecin, et vous avez raison, c'est la première chose à faire pour avoir une sécurité. Mais ensuite, il y a, dès lors qu'on connaît véritablement le diagnostic, il y a des possibilités autres. Alors, il y a des effets secondaires des médicaments. Oui, un médicament aussi anodin a priori que le flubendazole, même donné par le pharmacien, peut donner des syndromes très graves de toxicité dermatologique qu'on appelle des toxidermies. Donc, rien n'est anodin en termes de médicaments, effectivement.
D'accord. Et votre avis sur les solutions naturelles, est-ce que c'est à mettre sur le même pied d'égalité qu'un vermifuge que je peux aller chercher en pharmacie? En termes de durée de traitement et de, parce que quand j'ai vu les stats sur la quantité de parasites, pardon, la proportion de parasites qui étaient détruites sur la population, des fois c'est du 100% d'efficacité en 3 jours à 1 semaine de traitement, ce qui c'est assez radical quand même comme solution. Est-ce que c'est pareil sur ces traitements naturels?
Alors, vous avez raison. Et là, il n'y a pas d'études. À ma connaissance. Donc, il faudrait mener des études comparatives et quel va être le critère de jugement puisqu'on ne trouve pas les parasites le plus souvent, donc c'est très difficile. Donc, oui, ces méthodes naturelles peuvent être utiles, mais c'est que l'empirisme, l'expérience de tel ou tel. De même, le naturel n'est pas forcément anodin. Le naturel peut tuer, on peut mourir d'un choc anaphylactique avec une cacahuète, bien entendu. Mais c'est naturel. Donc, c'est votre corps. Quand vous avalez quelque chose, il y a la chose que vous avalez, le médicament ou l'alimentation, et votre corps, la réponse de votre corps. Beaucoup de maladies sont dues à la réponse de votre corps. Alors que vous tuez un parasite, soit par un médicament, soit par une solution naturelle ou naturopathique, eh bien la lyse du parasite, la destruction du parasite peut créer une maladie qu'on appelle la réaction d'Alzheimer. Donc au moment où vous tuez le parasite, vous pouvez aggraver les symptômes temporairement que vous aviez. L'urticaire peut s'aggraver, les démangeaisons peuvent s'aggraver et vous pouvez même avoir des œdèmes. Donc, le médecin va vérifier que vous ne prenez pas un médicament qui pourrait amplifier tout ça. Par exemple, si vous prenez un médicament pour le cœur ou la tension qu'on appelle un IEC, eh bien, vous serez plus à même de faire une réaction immunoallergique après la prise d'un traitement antiparasitaire. Vous voyez, les choses sont complexes. On ne peut pas expliquer ça aux patients. Donc, au patient de se renseigner auprès de son médecin pour avoir la plus grande sécurité. Et bien entendu, venir chez son médecin en disant, attention, docteur, je prends ça. Et ça comme traitement, est-ce que vous pouvez me traiter en toute sécurité?
C'est bien d'avoir des garde-fous et que les gens soient au courant. Ne commence pas à faire tout en autonomie et sans être accompagné. C'est jamais une bonne solution.
Malheureusement, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais on a de plus en plus tendance à voir des gens qui vont se soigner par eux-mêmes, peut-être par déception à l'égard de la médecine, qui effectivement, on en demande beaucoup à la médecine, on demande beaucoup aux médecins, qui sont pressurisés, qui n'ont pas beaucoup de temps, et probablement qu'il n'y a pas toutes les réponses satisfaisantes qu'il faudrait. Et donc, ces personnes vont s'adresser ailleurs ou s'adresser à eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la médecine.
Oui, bah je pense que c'est le système qui est essoré et les médecins qui ont aussi malheureusement des délais de consultation qui augmentent.
Exactement.
Leur démographie qui n'est pas suffisante, mais on va pas refaire le système de formation des médecins de nos jours et de remettre en cause le numerus clausus aujourd'hui. Je pense pas que c'était le sujet du podcast, mais.
Mais c'est bien de l'aborder et de peut-être oui. Le citer pour en avoir conscience.
Oui, oui, mais je pense que les gens se rendent pas toujours compte. Même je pense que les praticiens aussi ont évolué sur la charge de travail qu'ils acceptent aussi de prendre.
C'est ça. Le médecin est souvent corvéable à merci. Regardez ce qu'on demande à faire à un médecin pour le prix d'une consultation qui est quand même absolument incroyablement bas. Dans aucun pays, même au Maroc ou dans d'autres pays, le prix de la consultation est le double de celle qui existe en France. Pourtant, dans un pays où le niveau de vie est 10 fois plus faible que le nôtre. Donc, demander beaucoup à un médecin pour un tarif de consultation qui n'est pas à la hauteur, il ne pourra pas consacrer tout le temps qu'il veut malgré sa bonne volonté. Et croyez bien que la plupart des médecins sont de grandes, grandes bonnes volontés.
On vient finalement sur le discours des anciens qui faisaient au changement de saison qui vermifugeaient leurs enfants par tradition. Vous disiez que ça s'était perdu. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même à respecter? Vous parliez même dans votre livre de cycle lunaire. Est-ce que ça a été étudié aussi ou c'est
oui, alors moi,
vraiment
je fais,
empirique?
Oui, je fais confiance à toutes ces personnes qui ont étudié ça, qui l'ont vu. Et je n'ai pas d'expérience personnelle, mais j'ai voulu retranscrire cela dans le livre parce que je l'ai lu plusieurs fois et plusieurs personnes m'en ont parlé en disant « il vaut mieux se vermifuger au moment d'un cycle ». Alors, si c'était faux, ça serait pas grave, puisque au moins les personnes se vermifugeraient au moins une fois au moment du cycle lunaire. Donc, c'est pas grave en soi. Aller contre cette hypothèse, ça peut froisser des personnes en disant bah, « écoutez, n'allons pas voir les médecins puisqu'ils sont bornés, ils veulent pas comprendre cela ». Bon. Donc, je pense qu'on doit être ouvert et considérer que oui, pourquoi pas. Et puisque quelqu'un m'a dit, vous savez, la Lune est capable de contrôler les marées, pourquoi elle pourrait pas contrôler la reproduction des parasites? Et je lui dis, vous avez raison, en effet.
Magnifique. Je pense qu'on a été assez complet. Est-ce que vous voyez des choses encore à rajouter là-dessus?
Une autre chose peut-être très importante, on a vu, par exemple, dans le Covid, qu'on préconisait des médicaments antiparasitaires pour traiter le Covid. Ça ne m'étonne pas puisque les parasites baissent l'immunité tant et si bien que certaines maladies virales vont s'amplifier. On a vu l'herpès papilloma, mais on a pu constater que le Covid certainement aussi. Et puis même d'autres maladies bactériennes et même d'autres maladies parasitaires. Par exemple, j'ai constaté que les personnes qui avaient la gale, c'est donc un parasite de la peau, avaient des parasites internes digestifs. Et que si on veut bien traiter la gale, il faut traiter les parasites internes digestifs. Et c'est peut-être par ce mécanisme-là que le médicament qui s'appelle ivermectine fonctionne dans la gale, parce que peut-être qu'il va traiter des parasites internes qui vont être sensibles à l'ivermectine. Donc, toute maladie infectieuse qui touche notamment la peau, mais pas seulement la peau, les poumons, on a vu des pneumopathies dues directement à des parasites ou des pneumopathies bactériennes favorisées par l'existence de parasites internes. Vous aviez parlé de l'asthme aussi, il faut pas oublier l'asthme, les causes de l'asthme qui sont pas respiratoires pour la totalité des cas, non, pas du tout. 25% des asthmes seraient dus à l'alimentation, intolérance aux protéines de lait de vache, et dus également à des parasites. Donc voilà, avoir un esprit assez ouvert pour se dire attention, ce qui paraît absolument certain comme étant infectieux ou immunoallergique, non, a peut-être des causes différentes qu'il faut considérer.
Magnifique, je pense que c'était suffisamment complet. J'encourage tout le monde à aller se fournir de cet ouvrage sur les parasites. Ce serait quoi le dernier conseil de la fin? Le conseil à 1000% pour être en parfaite santé, professeur Humbert, qu'est-ce que ce serait?
Donc, écoutez votre corps, écoutez les démangeaisons, aussi petites soient-elles, à droite ou à gauche, elles peuvent être révélatrices de beaucoup de choses. Démangeaisons peuvent être révélatrices dans lymphome, et je n'oublie pas ça, si bien que dans mon livre, je donne l'exemple une personne qui a une maladie des ganglions et qui se grattait, on a cru penser que c'était des parasites. Ben non, dans ce cas-là, c'était pas des parasites. Et pourquoi? Il suffisait de l'examiner et de trouver les ganglions, donc c'était pas difficile. Et il faut pas oublier, mais quand le corps parle, quand il y a un symptôme qui est là au bout de 15 jours, 3 semaines, qui est toujours là, quel qu'il soit, et même s'il est mineur, démangeaison, ça paraît pas grave, ça peut cacher des maladies particulière. Et là, on ouvre grand toutes les hypothèses, on interroge largement la personne et on l'examine et on regarde toutes ses prises de sang. Et là, le médecin, il est capable, en une consultation, de savoir précisément toute la maladie de son patient.
Okay. Merci à vous. Je vous remercie pour le temps passé.
Merci, un plaisir.
Je vous laisse retourner à vos multiples consultations de la journée.
Voilà.
Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver pour un autre épisode pour aborder encore d'autres sujets passionnants, toujours autour de la santé.
Je vous fais une surprise pour début d'année prochaine, vous verrez.
On peut avoir un indice quand même ou pas?
Non, pas trop encore pour le moment. Je garde le secret. Je vous en parlerai peut-être d'ici là.
C'est top secret.
Top secret. À bientôt donc.
À bientôt. Restez avec moi.
Hein. Je reste avec vous.